Liambo Wologem, Mali.
Comme John M. Kedze, le Malien Liambo Wologem est né en 1940. Et tous deux font partie d'une classe d'âge, celle des années 40, particulièrement féconde et riche en talents. Mais la comparaison avec Kedze s'arrête là, car Wologem est l'homme d'un seul livre. Mais quel livre et quel bruit autour de ce livre ! Lorsqu'en 1968, le Dogon Wologem publie son « Devoir de violence », il est donc âgé de 28 ans. Et son livre ne passe pas inaperçu. Accusé par les uns d'une excessive sévérité à l'égard de l'Afrique précoloniale, et plus encore de ses notables, oppressifs et prédateurs. Accablé par les autres d'un procès en plagiat, le livre d'une grande originalité n'en séduit pas moins la critique dans son ensemble et notamment le jury du prix Renaudot qui le couronne. Mais que dit le devoir de violence qui puisse à ce point ulcérer les tenants d'une littérature africaine exclusivement axée sur une valorisation du passé et sur la glorification des héros de son histoire précoloniale et coloniale ?
Ce livre, Le devoir de violence, relate l'histoire de la dynastie des Saïfs qui règne depuis l'aube des temps sur des populations terrorisées, pacifiées au XVe siècle par un début de prospérité, laquelle va d'ailleurs voler en éclats au XIXe siècle, lorsque des familles de notables vont se partager l'autorité et accroître l'exploitation de leur peuple. La violence et la magie noire, le cannibalisme lui-même, règnent alors en maître. Les Blancs sont arrivés et en face d'eux se dresse le dernier des Saïfs, le rusé, celui qui utilise le pouvoir des Blancs pour maintenir son peuple sous sa dépendance de souverains oppresseurs et violents. Et c'est par une partie d'échecs qui met face à face Saïf et l'évêque Henri, homme de tous les dévouements, que se termine le récit comme une rédemption possible et l'aurore d'un monde meilleur. Écoutons en quels termes Liambo Wologem élargit à l'ensemble du continent la métaphore de cette partie d'échecs.
Il est évident qu'il ne faut pas oublier que c'est une chose qui ne trompe personne, c'est-à-dire que l'ambiguïté finale de cette confrontation autour d'une table d'échecs, le sens du second mot est très significatif, ne trompe personne parce que nous sommes dans, par excellence dans le domaine de la passion assumée et dominée peut-être, mais de toute façon dans le domaine où le baiser lui-même a été dévalorisé par Judas. Et que, par ailleurs, de toute façon, on a le choix entre deux dérisoires. Soit accepter une aliénation qui est le propre de la société de consommation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et où la production intéresse le capital dans la mesure où elle sert la production. Et à cet égard, nous sommes tous des nègres ou des juifs allemands ou bien des ouvriers de luxe. Ou bien opter pour un autre dérisoire, c'est-à-dire dire quelque chose, ce qui peut soit être un coup d'épée dans l'eau, soit purement être une expression, un langage qui, de toute façon, il ne faut pas en être dupe, ne vaut que dans la mesure où elle continue à garder une puissance marchande. Alors, dans la mesure où ce devoir de violence s'arrête en 1947 et où il est évident que l'Afrique ne s'est pas arrêtée à cette période et qu'il y a beaucoup de choses également qui sont passées après, il y a une fuite à ce livre.
31 ans après la publication du devoir de violence, 1999, au Festival des étonnants voyageurs de Bamako, un collectif d'écrivains africains et antillais s'est attaché à réhabiliter la personne et l'œuvre de Liambo Wologem, désormais reclus dans son village d'Ogon. Écoutons le plaidoyer de l'haïtien Daniel Laferrière.
C'est une initiative spontanée prise un soir à Bamako où nous sentions pas trop loin de notre nuque le souffle du grand écrivain malien. Nous nous demandions simplement pourquoi il n'était pas avec nous. Pourquoi nous ne l'avions pas à notre table pour une de ces conversations interminables brassant tous les sujets auxquels nous devons faire face aujourd'hui? Nous aurions tant de questions à discuter avec un esprit aussi pénétrant et subversif, car de tous nos aînés, Liambo Wologem est celui qui semble le plus proche de nos préoccupations, le plus fraternel aussi. Pour la plupart d'entre nous, nous l'avons constaté dans l'avion même qui nous menait à Bamako, le devoir de violence fut un moment de lecture capitale. il ouvrait, quelques années après les indépendances, un champ de discussion fertile et un débat fondamental à propos de notre histoire collective. Mais cela ne serait pas si important à nos yeux sans ce style si distinctif qui a fait de Hologen, déjà à sa première salve, un jeune maître tant prometteur. Quel chemin il ouvrait là, et si tôt. Nous nous sentions étonnamment fiers de ce roman. Évidemment, on peut contester comme on veut le talent d'écriture, le mélange des genres ou toute autre chose, mais il est inadmissible d'empêcher qu'un tel livre rencontre son lecteur naturel. Dans le cas du devoir de violence, ce fut un meurtre. Et Hologen, lâché presque par tout le monde, de droite à gauche, en Afrique comme en France, dut faire face seul à la meute des chiens. On imagine la souffrance d'un si jeune homme d'avoir été livré en pâture de façon si injuste. Car nous savons que le plagiat ne fut pas la cause déterminante de cette affaire. Ce qui enrageait beaucoup de gens, ce fut le thème du livre. Cette façon intempestive de sortir tous les cadavres de tous les placards de l'histoire de la colonisation. Ne nous méprenons pas, l'œil terrible de Yambo Hologen n'épargne pas plus le colonisateur que le colonisé. C'était à ses yeux le seul moyen de s'affranchir totalement de la névrose de l'histoire. Et surtout, le fait que tout cela fut porté par un style si incandescent. En un mot, c'est le talent de Yambo Hologen qu'il a perdu. Ce talent qui lui a fait mériter tout de suite le prix Renaudot. La victoire de Yambo Hologen signifiait l'échec de la négritude finissante. Et la négritude rassurait sur tous les plans. Économie, politique, littérature, tant de gens, en France comme en Afrique. Il fallait donc l'élimination physique du livre et l'exil de l'auteur, ce qui ressemble étrangement aux méthodes décrites dans le livre même, comme si la malédiction de Saïf était tombée sur Hologen lui-même. Aujourd'hui, nous, écrivains, journalistes et intellectuels de tous bords, réclamons la présence au grand jour de cet admirable visage et la fin de l'exil de l'auteur du devoir de violence. Car nous tenons à lui dire bien en face tout ce que nous lui devons. Merci, Yambo Hologen.